Chapitre 2e, dans le bruit. Nous traversâmes les cryptes, le sous-sol, si vous préférez, de l'église de la Trinité. Nous nous trouvâmes bientôt en face d'un mur dans lequel une porte était percée. Grâce à la lueur de nos lampes électriques, je pus voir, à la couleur du mur entourant cette porte, qu'elle avait été tout récemment travaillée. Sans doute murée autrefois, condamnée depuis longtemps, elle venait d'être remise en état de servir tout récemment. Martin Numa, qui jusqu'ici avait gardé le silence, se tourna vers moi et me dit « Mon cher Courville, nous ne pouvons pénétrer par le regard de la place de la Trinité sans donner l'éveil à nos ennemis qui nous surveillent incessamment. Ils ont surpris, je ne sais comment, le secret de notre entrée dans le souterrain, et ils ont posté des gens sur la place de la Trinité qui veillent sur le regard par lequel nous entrions. L'entrée qui se trouve derrière Notre-Dame de Lorette certainement est également surveillée. Oui ? Oui, ils gardent de même tous les regards pouvant aboutir à l'embranchement qui va jusqu'à leur Hamilton et qui se trouve aux alentours de mon tombeau. Toutes ces issues sont gardées par des espions. » Je m'écriai. Enfin, mon cher ami, il est une chose qui, dans tout cela, me paraît étrange, anormale. Laquelle, cher ami? Pourquoi, puisque vous connaissez ces espions, que vous les avez brûlés, selon le terme du métier, ne les empoignez-vous pas une bonne fois? Ne leur faites-vous pas avouer ce que vous tenez tant à savoir et que vous avez tant de mal à rechercher? Voyons, pourquoi? Martin Numa me regarda froidement et me dit « Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. » Puis il ajouta « Vous oubliez, mon cher Courville, que nous sommes en France, que nous avons fait en 89 une révolution et guillotiné pas mal de monde, pour obtenir beaucoup de choses et n'en garder que très peu. Cependant, non, mon cher, nous n'avons pas le droit, depuis que la Bastille n'est plus qu'une tête de ligne de tramway et d'autobus, nous n'avons pas le droit d'arrêter les gens selon notre bon plaisir, alors même que cela serait très utile à la meilleure cause, au salut, à la tranquillité des citoyens. Je sais. Pour mettre la main au collet d'un individu, que je sais être un espion qui agit contre moi, auxiliaire de la justice, et qui surveille un point quelconque pour m'empêcher de remplir ma mission, il faut un ordre express. Il faut même que le parquet s'en mêle. Un mandat est indispensable. Exact. Or, supposez que j'arrête ou fasse arrêter un de ces hommes. Sous quel prétexte le pourrais-je? Quel reproche aurais-je à lui adresser à cet homme qui ne fait là rien en apparence? Qui peut faire démontrer par son avocat qu'il avait absolument le droit de se tenir dans la rue? Qui n'a rien peut-être à son casier judiciaire? Qui n'a pas encore paru devant les tribunaux? Voyez-vous à quoi je m'expose? Quel tapage dans la presse! Quelle évocation des droits de l'homme! Quel hurlement à l'arbitraire! C'est vrai. Il faut toujours un commencement d'exécution pour que nous puissions intervenir. Il faut réellement que les malfaiteurs commencent. Très juste. Bien ennuyeux, bien gênant, mais enfin c'est la loi. Mais cela vous coupe les bras. Cependant, il ne m'est pas défendu de prendre des précautions et de tourner, comme toutes les lois, cette fameuse loi qui veut que pour sauver les gens, il faille attendre qu'on commence à les égorger. Et c'est ce que je fais. » Martin Numa, avec sa lampe électrique, se mit à inspecter les contours de la porte. Il l'ouvrit ensuite et il s'engagea avec Prosper de quelques pas dans le souterrain. On percevait le roulement sourd des voitures. Je me demandais comment Martin Numa pouvait s'y reconnaître dans ce bruit. Comment il pouvait distinguer dans ce tapage sourd un bruit d'un autre, faire une différence quelconque, enfin se rendre compte de ce qu'il désirait tant savoir. Au bout d'un moment, Martin Numa et Prosper revinrent. Derrière eux, ils fermèrent la porte, puis le roi des détectives, se campant sur ses jambes, tira un étui à cigarette, en offrit une à moi et à ses collaborateurs et dit « Nous pouvons fumer tranquillement. L'heure n'est pas encore venue où les gens doivent faire leur apparition. » Et se tournant vers moi, il ajouta « Vous avez dû vous étonner, mon cher, en me voyant aller avec Prosper écouter ainsi dans le souterrain. » Et vous vous êtes demandé s'il ne nous était pas possible de nous brouiller dans cette confusion de bruit, de roulement. En effet, et j'avoue que jusqu'à présent je ne comprends pas. Mon cher, si je vous disais que c'est extrêmement facile, je mentirais. Il faut en effet une oreille exercée comme la nôtre. Il faut avoir, si je puis ainsi dire, suivi des études spéciales pour faire des distinctions dans ce bruit, ce tapage, et percevoir ce que l'on cherche dans ce brouhaha. Je n'en doute pas. Nous avons l'oreille faite à ce travail que nous lui demandons, absolument comme celle d'un chef d'orchestre qui, au plus fort de la fanfare, reconnaît la faiblesse ou le désaccord, si minime qu'il soit, de l'instrument d'un de ses exécutants. Très exact. Laissez-moi vous l'expliquer. Quels sont les bruits que nous entendons ici dans cette voûte? Des roulements uniquement. Nous entendons le roulement incessant des roues d'auto, de poids habituels, puis le passage en trompe d'un camion, d'un autobus, d'un poids lourd qui ébranle tout. C'est comme le bruit d'un torrent ou d'une énorme vague de l'océan cognant contre une falaise. Négligeons les hurlements des klaxons. Charmante musique, cependant. Les roulements seuls nous intéressent. Avant l'invention des pneumatiques et la disparition des chevaux, le bruit des roues ferrées et des sabots zébrait le son, pour ainsi dire, et claquait nettement sur le sol. Les pneus laissent moins entendre le bruit de la voiture que ressentir l'ébranlement que le poids et la vitesse produisent. Je comprends. De plus, la voûte arrondie adoucit chaque bruit, l'estompe, le rend plus long. En somme, le dénature. Oui, lui donne un caractère spécial, auquel nous qui en avons l'habitude, nous ne pouvons nous tromper. C'est évident. Au bout de peu de temps, vous seriez vous-même en mesure de faire cette distinction. Probablement. D'un autre côté, si un bruit nous arrivait par la voûte, le bruit serait déjà plus sonore, moins enveloppé, moins atténué, et il ne serait pas accompagné de roulements de la même opacité. Il serait seul, plus franc, plus intelligible. Ce seraient les pas d'hommes marchant sur un sol ferme ou clapotant dans la boue. Je connais cet agrément. Mais il n'y a pas moyen de se tromper. Le pas, la marche des hommes venant par le couloir, d'un côté ou de l'autre, ne peuvent ressembler en rien au roulement sourd des roues de voiture. Je le crois volontiers. Vous voyez, mon cher ami, que nous ne sommes pas sorciers et que tout notre savoir et notre pouvoir viennent uniquement de notre travail d'observation et de notre mémoire. Martin Numa continua ses explications, me rappela quelques moyens de discerner les voix dans le lointain et de reconnaître les bruits. Il m'apprit comment, dans la montagne, dans la forêt ou dans la plaine, on parvient non seulement à reconnaître une voix, mais à savoir d'où elle part, à quelle distance elle est. Ce sont, dit-il, des trucs de montagnards ou de chasseurs, de gens qui vivent dans la nature et qui ont, comme nous ici dans la ville, vécu un peu l'existence de Port-Rouge, sans cesse sur une piste de guerre, et fait de grandes expériences et de longues observations. Puis, après nous avoir conté avec une verve charmante quelques anecdotes, il dit « Je crois maintenant que nous pouvons aller. S'ils doivent venir ce soir, ils sont en route et nous arriverons au bon moment. » Et s'adressant à Philippe, il lui demanda « Vous avez la toile ?»« Oui, chef. » Philippe était en effet chargé d'un assez volumineux paquet. « C'était de la toile, paraissait-il. »« Pourquoi ? Et pourquoi faire de la toile ?»